Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast pour vous faire découvrir ou redécouvrir la cuisine britannique et son histoire. Dans chaque épisode, j'accueille un ou plusieurs invités pour parler d'une spécialité, mais aussi de leur lien avec la cuisine de chez moi. Je suis Sarah Le Sage et ravie de vous avoir avec moi. Dans cet épisode, j'accueille Sarah Lachabe et Aurélie Bellasico, deux Françaises qui habitent en Grande-Bretagne et qui viennent de publier un nouveau livre « Angleterre, thé, piccalilli et pastille, 60 recettes et autres explorations de la cuisine anglaise » avec édition La Martinière. Vous allez découvrir ce tout nouvel ouvrage et nous allons aussi parler de la plat coup de cœur du nord-est de l'Angleterre, le peas pudding. So, pinky up and let's get started. Alors, bonjour Sarah et Aurélie. Quel bonheur de se retrouver pour une deuxième interview. Comment allez-vous?
Bonjour Sarah, merci beaucoup de nous inviter à nouveau. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
Ouais, on est vraiment très heureuse d'être là une deuxième fois.
Bah justement, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2021 pour la parution de votre livre Écosse de l'édition Martinière et on avait fait un épisode sur le shortbread.
Ouais, tout à fait.
Et hier, c'était le lancement de votre nouveau livre, Angleterre. Comment ça s'est passé? Vous étiez aux librairies Voyageurs du Monde, je crois.
Oui, oui, oui. Bah, on a organisé un petit événement. C'était vraiment sympa. Il y avait, les libraires avaient cuisiné des plats de nos deux livres. Il y avait des Empire Cookies du premier et puis des sandwichs aux œufs du deuxième. Et puis, on a fait une espèce de petite interview où on répondait aux questions. C'était très sympa, ouais.
Super. Et merci à Oliver Woodhead qui nous reçoit dans l'Entente, le British Brasserie, à Paris, une très jolie adresse dans le deuxième arrondissement. Bonjour Oliver.
Bonjour. Good afternoon.
Et voilà, vous allez trouver la meilleure de la cuisine britannique à Paris avec ses brunchs le week-end, les Sunday roasts très réputés et d'autres plats que vous pouvez trouver dans le livre Angleterre de Sarah et Aurélie. Alors Aurélie, tu es le photographe et le chef cuisinière pour le livre, mais est-ce que tu peux te présenter en deux mots?
Oui, bonjour, donc je m'appelle Aurélie, j'habite à Leamington Spa en Angleterre depuis un an et demi, mais avant ça j'habitais en Écosse à Édimbourg, donc ça fait 8 ans à peu près que j'habite au Royaume-Uni. Pour ce livre, bah, en fait effectivement c'est moi qui ai fait les photos, j'ai créé les recettes et je les ai aussi écrites.
Ben, les photos sont vraiment magnifiques, donc bravo.
Merci.
Et ben, on va revenir sur le contenu du livre, mais bravo déjà. Et Sarah, on se connaît de Mulhouse.
Et oui, je suis née dans la ville de Mulhouse que tu connais très bien et où j'ai eu le plaisir de te rencontrer. J'habite maintenant à Édimbourg, en Écosse, où je fais le métier de guide et j'ai eu l'immense plaisir de travailler avec Aurélie sur ces deux très jolis bouquins.
Ben effectivement, ensemble, vous avez imaginé, recherché, voyagé, cuisiné, photographié ce magnifique livre, Angleterre. Alors, déjà sur l'ouvrage, le livre, le nom, Angleterre avec le sous-titre Thé, Piccalilli et Pastille. Alors évidemment, ça fait très plaisir parce que pastille, c'est chez moi. Mais, mais comment vous avez choisi ces trois plats, enfin, c'est pas des plats, des spécialités pour le sous-titre?
En fait, on a cherché des mots qui riment ensemble et qui sont beaux à l'oreille.
Ah.
Donc, on a essayé plusieurs combinaisons et on s'est dit que c'était chouette. Et puis, en même temps, ça nous donnait une boisson, un plat qui a des origines qui sont un peu plus variées, avec des influences du monde entier et quelque chose de très anglais comme les pasties et de très local. Donc ouais, on a eu plusieurs, je sais plus sur quoi on a hésité, on a eu aussi Cadbury pour le riz, enfin bref, on était sur le son I quoi, clairement.
D'accord, et c'est vrai que maintenant j'y pense, c'est quelque chose que les Anglais sont tout à fait capables de consommer ensemble. Un pastille avec le piccalilli pour le relever un petit peu, et avec son tasse de thé, en fait c'est très très british ça.
Oui c'est vrai, c'est la recette d'un lunch sur le pouce parfait au final.
Exactement. Alors, il y a 60 recettes et autres explorations de la cuisine anglaise. Enfin, ça, c'est le sous-titre. Mm-hmm. C'est un voyage culinaire à travers le paysage et l'histoire culinaire d'Angleterre, avec déjà une très belle carte. J'adore, je ne sais pas qui l'a dessinée, cette carte.
C'est le graphiste Benjamin Huzé.
D'accord. Ben, c'est magnifique parce que ça montre où on trouve des plats par rapport à les régions. Et donc, le livre, il va explorer des plats, des produits, des coutumes régionales. Et c'est très loin des clichés de fish and chips, le bœuf bouilli et le gelé.
Comment vous êtes préparé et organisé pour créer ce livre ?
Alors, ça a été un très long travail, on ne va pas se mentir, parce que résumer l'Angleterre en 60 recettes, ce n'est pas une mince affaire. C'est comme si on disait résume la France en 60 recettes. C'est la même chose. Il y a énormément de recettes, donc il y a eu un gros travail au début de recherche dans divers livres de différentes époques. Donc on est parti sur, par exemple, Mrs. Beaton's, donc l'époque victorienne. On avait fait des livres aussi des années 60, 70 et des livres récents et des sites web aussi, le site de la BBC, le site du magazine Delicious Food aussi, qui sont des recettes qui sont très très bonnes. Donc au début, on a eu énormément de recettes. Et puis au fur et à mesure, on les a écrémées. Mais ça a été quelque chose qui a changé jusqu'à la dernière minute, le choix des recettes.
Bah effectivement, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'Angleterre a un très riche héritage.
Ouais. Ouais.
Ce que les Français ne comprennent pas et on ne connaît pas, connaît mal. Et c'est vrai que déjà, remonter dans le passé comme ça, vous avez pu voir aussi comment la cuisine a évolué.
Oui.
Et surtout les différents plats dans les régions dont on va parler aussi.
Tout à fait.
Et quels étaient les critères donc pour sélectionner les recettes donc, parce qu'il y en a tellement. Comment vous avez réussi à réduire à ça à 60
Alors, bon, bah, y avait plusieurs paramètres. Déjà, y a la régionalité parce qu'on a parlé de la carte. Donc on voulait vraiment avoir des exemples de un peu toutes les régions représentées dans le livre pour pas qu'il y ait de jaloux, pour montrer un peu que partout on pouvait manger régional. Des recettes un peu originales aussi, donc des recettes, comme tu disais, qui sortaient du fish and chips et puis du bœuf bouilli et de la gelée. On voulait autre chose, on voulait montrer justement autre chose. Pas mal donc de saisonnalité, pas mal de produits locaux, comme on a fait un voyage donc dans les Cornouailles, où là on a vraiment fait la part locale aux produits qu'on peut trouver dans les Cornouailles. Et puis aussi, hein, on va pas se mentir, goût personnel, nos goûts à Sarah et à moi. Et on a fait attention à trouver des recettes avec des produits qu'on peut trouver en France. Parce que par exemple, la marmite et la clotted cream, c'est un peu...
Ah, la marmite, si. Hein.
On peut en
trouver.
C'est
incroyable. Ouais. Même dans mon petit supermarché local en Bretagne.
Je ne savais pas.
Je pense que là où il y a une communauté britannique, on peut encore trouver certains produits. D'accord. Mais par contre, le clotted cream, malheureusement...
Ça, c'est la tragédie. Hein.
C'est une tragédie.
Oui.
Alors, donc, c'est vrai qu'on me dit aussi souvent, Sarah, vous avez déjà fait 50 recettes, tu dois être au bout de ton podcast, mais effectivement,
non.
Vous confirmez qu'on s'est loin de là. Donc, il y avait tellement de choses à dire, comment vous avez articulé le livre ?
Alors, nous avons choisi, en fait, de l'organiser autour des moments de la journée. Le petit déjeuner, un déjeuner sur le pouce, un goûter avec l'heure du thé et... Et puis, bien sûr, les viandes, les rôtis, les plats un petit peu plus conséquents. On a aussi fait bien attention de mettre des recettes classiques, donc des sauces, et puis la crème anglaise.
Bah oui, j'ai vu, c'est quasiment la première recette dans le livre. C'est l'introduction.
C'est la base.
C'est la base. Et j'ai vraiment apprécié qu'il y ait aussi des versions véganes dans les recettes.
Oui, ça a été vraiment... C'est important pour Sarah et moi, parce qu'on n'est pas végétarienne ou végane per se, mais par contre, c'est important pour nous, parce qu'on n'aime pas trop la viande, et on voulait offrir... on voulait montrer la diversité, et on veut montrer que parfois, il suffit de changer un ou deux ingrédients pour passer d'une recette traditionnelle à une recette végane délicieuse. Donc, on voulait vraiment montrer ça avec nos recettes.
Ouais, mais je trouve ça génial parce que de toute façon, on doit tous manger un peu moins de viande. Et il y a beaucoup de gens qui associent l'Angleterre juste avec beaucoup de plats autour du bœuf et des saucisses. Mais il y a plein d'autres choses et vous montrez comment adapter les plats classiques. Alors, on a aussi des pages sur l'agriculture, des produits, des fromages, mais aussi vos recommandations des livres, des séries télé et des films. Donc, c'est très, très complet. On a même le sport, le rugby, le cricket et des propositions de voyages culinaires que j'adore, que je vais m'inspirer pour un prochain voyage dans le Lake District. Et puis, on a aussi des liens et des adresses anglaises en France dans l'entente et avec la photo magnifique de Oliver. Et voilà, aussi une autre adresse que j'adore, territoire de Arnaud Bachelin.
On a vraiment voulu voir ce livre comme une introduction. Et c'est un peu dans le sous-titre l'exploration. On ne va pas tout couvrir, on n'est pas des expertes, mais on a envie de donner quelques clés pour ensuite aller plus loin. Et on n'avait pas beaucoup de pages. Pour nous, la cuisine, c'est une porte d'entrée, comme plein d'autres. Et on pense aux gens qui ont envie de se mettre dans l'ambiance de l'Angleterre et qui peuvent le faire dans la cuisine, mais aussi avec ce qu'ils écoutent, ce qu'ils vont regarder le soir... Et voilà, c'est comme ça qu'ils vont rencontrer des nouvelles personnes et apprendre encore plus sur ce magnifique pays.
Bah, je trouve que vraiment ça, vous avez bien réussi. C'est vraiment beaucoup plus qu'un livre de recettes. Alors, j'ai envie de citer un petit extrait de votre introduction. Nous avons découvert une manière de faire et de manger qui sait jongler avec les produits du terroir sans se prendre trop au sérieux et avec une touche de fantaisie. Nous avons savouré une cuisine qui laisse la part belle aux influences du monde et qui s'autorise mélange et expérience tant qu'ils sont faits avec le cœur. Et je trouve vraiment ça résume super bien la cuisine britannique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au fait que les Anglais ne se prennent pas très au sérieux ?
Alors, j'espère que tu ne l'as pas pris de manière négative. Ah, en tout cas, ne pas se prendre au sérieux, pour moi, ça veut dire se délester de cette rigidité que l'on peut trouver parfois dans la cuisine française. Le bœuf bourguignon, c'est comme si, il faut cuire tant de temps, il y a des règles d'or à ne pas dépasser. Alors, je comprends l'intérêt d'avoir des règles écrites, c'est important aussi. Mais moi, ce que j'aime finalement dans la cuisine anglaise, c'est sa simplicité d'une part, et aussi son ouverture sur le monde, le fait qu'on peut faire des expériences, rajouter d'autres produits, peut-être marier ensemble des aliments qui pourraient nous surprendre. Et c'est moi, avec mes yeux d'étrangère, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et tu vois, on a fait aussi une page sur les recettes qui vraiment font rigoler. Et on a mis la Stargazy Pie, qui est une tourte avec des têtes de poisson qui dépassent. Alors, je sais bien que personne ne consomme ça et que ce plat est surtout lié à une légende et à une histoire dans un village en particulier. Mais de temps en temps, c'est quelque chose qui fait une apparition dans les émissions culinaires ou même certains chefs l'ont mentionné. Et pour moi, être capable de dire « Allez, on va faire une tourte avec des têtes de poisson qui dépassent », c'est juste drôle et créatif et inspirant aussi.
Tout à fait. En plus, c'est de chez moi.
Ouais.
Et je trouve que cet enthousiasme pour une cuisine un peu plus décontractée, un peu plus déconstruite, se fait beaucoup sentir en France en ce moment avec l'ouverture de nombreux pubs, des gastropubs, des salons d'été, des cafés où on peut manger peut-être plus vite, plus simplement et sans chichi.
Et peut-être qu'on peut en fait se rendre compte là qu'il y a comme un renouvellement de l'histoire, puisque au XVIIIe siècle, à Paris, on a eu l'ouverture de restaurants anglais.
C'est vrai.
Et à ce moment-là, l'Angleterre était à la mode, parce que même dans l'habillement, c'était un habillement qui était plus relâché, plus confortable. Les jardins, les Français, ils avaient ce jardin vraiment à carreaux et tout, tout bien découpé.
Jardin à la française.
Exactement.
Oui.
Et quand on parle d'un jardin anglais, c'est un jardin qu'on laisse respirer, où les herbes peuvent pousser. Et il y a beaucoup de beauté dans cette simplicité. Donc l'Angleterre a beaucoup été à la mode en France. Et même si aujourd'hui, parfois, on entend quelques moqueries sur la gastronomie anglaise, ça cache quand même une amitié profonde et ancienne, beaucoup de points communs. Et voilà, on aime bien, comme des cousins, on aime bien se charrier, mais comme on dit, hein, qui aime bien, châtie bien. Et voilà, donc c'était juste pour rappeler qu'il y a quelques siècles déjà, les Anglais, du point de vue de la gastronomie, ont inspiré les Français eux aussi.
Complètement. Donc en fait, c'est un cycle.
Voilà.
Et ça revient à la mode. Alors, notre petit extrait du livre, « Londres est l'œil d'un ouragan culinaire incomparable ». Du croisement de toutes les influences du monde. Et j'adore cette image d'un ouragan. Ça grouille, ça va tellement vite. On dirait que Londres est aujourd'hui un des laboratoires des plus grandes tendances et influences de la cuisine au niveau mondial. Est-ce que vous avez trouvé ça ? Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bien sûr. Dans le livre, on a finalement assez peu parlé de l'urbanité dans la gastronomie anglaise. Mais Londres, c'est un monde à part. On peut manger tout ce qu'on peut trouver dans le monde. Au début des années 2000, le ministre des Affaires étrangères, Robin Cook, il a justement parlé de ça dans un discours. Et il a dit, ce soir, il y a 300 langues qui sont parlées à Londres. Et donc, il y a tout autant de gastronomies différentes qui sont dégustées. Et pour moi, ouais, c'est vraiment le centre de cette spirale, de cette tornade presque, qui va avoir ensuite de l'influence sur le reste du pays et le reste de l'Europe aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de grands chefs français regardent ce qui se passe à Londres, parce qu'il y a cette notion presque d'avant-garde aussi dans la création culinaire.
Tout à fait. J'ai rencontré beaucoup de chefs à Paris qui sont passés au moins quelques mois à Londres et qui sont revenus avec plein d'idées. Donc, pour cet épisode, tu sais bien, on doit focaliser sur un plat ou une spécialité. Et je suis ravie parce que vous m'avez fait découvrir un plat que je n'ai jamais goûté, parce que c'est un plat du Nord-Est et que moi, je suis du Sud. Et vraiment, c'est un plat très, très régional. Donc, de nouveau, je vais citer de votre livre, « Mais la spécialité chère à notre cœur reste le pease pudding ». Enfin, peut-être pour la région. une épaisse purée de pois cassés qu'on tartine dans les sandwichs de Northumberland. Alors, c'est un plat très simple, hein, un plat des pauvres et des ouvriers du Nord. Comment est-ce que vous êtes tombé sur ce plat et comment est-ce qu'on peut le décrire?
Alors, ce plat, je l'ai... Je suis tombée dessus dans les lectures des dizaines de livres que j'ai lus pendant la phase de recherche. Et il m'a beaucoup intéressée, interpellée par sa simplicité et par sa... Il est très vieux, c'est un plat médiéval, c'est un plat qui existe depuis très très longtemps. Et donc c'est une tartinade, un peu comme du houmous, qui est fait avec des pois. C'est un plat qui est facilement... Donc c'est un plat végétarien qu'on peut facilement rendre vegan. Un plat très simple mais qui nourrit vraiment bien.
Oui, c'est vrai que c'est très nourrissant. Hein. Mm-hmm. Et alors, comme tu dis, c'est un très, très ancien plat. Alors, il faut préciser d'abord que ce n'est pas un dessert. Quand on dit pudding dans ce sens-là, oui. En Angleterre, pudding peut dire plusieurs choses. Hein. On a le Yorkshire pudding, on a le dessert qui est un pudding cuit à la vapeur. Mais ici, on est dans le pudding, qui était un terme générique, en fait, pour tout ce qu'on cuisait. Quand on cuisinait dans une marmite, on mettait la viande, puis la bouillon, enfin il y avait l'eau dedans, et on mettait d'abord dans les intestins, avant l'invention des torchons, enfin les tissus, pour faire une espèce de boudin, où on mettait à la fois des restes de viande, des légumes, et dans ces cas-là, ça va être des petits pois cassés, avec des oignons, enfin des épices, tout ce qu'ils avaient. C'était un peu mélangé sucré salé aussi à l'époque, oui. Il n'y avait pas la notion d'autre plat dessert comme on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, le pudding a la même racine, mot latin, de boudin. Donc voilà, c'est cette idée de saucisse, on remplit quelque chose. Alors, il ressemble, comme tu as dit, à d'autres choses qu'on trouve comme le houmous.
Ouais.
Et aussi le dal en Inde qu'on va faire avec des lentilles. Et le hava en Grèce qui font aussi avec des pois cassés ou autre chose. Mais en Angleterre, on a tourné notre dos sur les légumineux en général. Depuis le 18e siècle, et on considérait que c'était un peu la nourriture des pauvres, sauf dans cette région de Northumberland, où c'est un accompagnement traditionnel. Donc, la recette dans votre livre, on le voit tartiner comme une tartinade sur une tranche de pain, mais il peut aussi être un accompagnement. Comment on peut les manger?
Alors oui, on peut les manger à l'apéritif, hein, comme du houmous ou comme une tapenade, par exemple. On peut aussi le servir donc, en garniture à l'intérieur d'un sandwich. Ou par exemple, on peut, si on veut changer un petit peu des petits pois qu'on sert avec le fish and chips, on peut à la place servir du peace pudding.
Ah oui, à la place de mushy peas.
Voilà, à la place des mushy peas. Au final, c'est très proche, là. La recette est très proche.
C'est très proche, sauf que je crois qu'on n'utilise pas les mêmes petits pois.
Non, c'est des petits pois verts, c'est des garden peas. Alors que là, c'est vraiment des pois cassés.
Des champs, comme on dit. Voilà. Ouais. Donc, en gros, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre peace pudding? Comment on le fait? C'est assez rapide. Hein?
Alors c'est, non, c'est pas rapide. Je dirais pas que c'est rapide parce qu'il faut laisser tremper quand même les pois la veille dans de l'eau. Mais ça, c'est la veille. Mais le jour même, on va dire le jour même, c'est juste faire revenir un petit peu des oignons dans de l'huile. Alors moi, j'aime bien mettre aussi des herbes de Provence pour parfumer avec du sel. Une fois que les oignons, ils sont bien revenus, on peut aussi mettre donc de l'ail. Puis... On fait cuire, on rajoute les petits pois avec de l'eau, on fait cuire tout ça et puis en fait on le passe au presse-purée. Puis moi j'aime bien avoir une texture rustique, donc je vais pas non plus en faire une purée fine. J'aime bien l'écraser à la fourchette ou l'écraser un petit peu, qu'il reste quand même un petit peu de texture à l'intérieur et puis c'est tout.
Ah bah oui.
Voilà, on peut. Puis c'est une recette qui est tellement versatile. Moi, donc j'aime bien mettre avec des herbes de Provence, mais on peut mettre des épices de curry à l'intérieur. On peut mettre aussi, si on veut mettre des poivrons rouges pour épicer, des piments rouges pour épicer, ce genre de choses. C'est vraiment un canevas auquel on peut adapter avec ses goûts.
Et du coup, c'est un super plat végétarien.
Ah oui, c'est un plat végétarien parce que je mets du beurre, mais on peut très bien utiliser de l'huile d'olive à la place. Et là, dans ce cas-là, c'est vegan, très bon, très nourrissant.
Et je crois que dans le Northumberland, ça accompagne souvent le bacon ou le porc.
Ouais, avec le porc, ouais.
Mais il peut très bien se manger tout seul comme un plat. Hein,
oui, c'est ça.
Et
c'est
ça va remplacer peut-être le purée de pommes de terre dans le Nord-Est.
Ou même un mélange des deux, en fait, purée de pommes de terre et puis peace pudding.
Pourquoi se priver?
Voilà, pourquoi se priver, exactement.
Mais en fait, ces légumineuses étaient consommées beaucoup en Angleterre avant l'arrivée de la pomme de terre. Et donc, c'est vers le XVIIe siècle que, voilà, on va dire, ça, on laisse aux ouvriers. Et c'est vrai que c'était pas cher. Mm-hmm. Donc, ça faisait vraiment un plat qui calait très bien. Mais par contre, c'est peut-être pas un plat qu'on va trouver à l'entente, ici, la brasserie. Je pense pas que c'est sur la carte, mais peut-être ça va leur donner l'idée.
Si tout le monde demande.
Alors, c'est vrai que le peas pudding, c'est aussi dérivé de peas pottage, ou potage. Et c'était un plat national en Angleterre que les Français, ils appelaient ça le potage à l'anglaise. Cette idée de mettre des pois cassés. Et il y a des plats similaires comme le parched ou black beans. Je ne sais pas si vous connaissez ça dans le Lancashire. Mm-hmm. Qu'on mange à l'occasion de Bonfire Night, le 5 novembre.
Ah, ok. Non, je ne savais pas.
C'est une grande fête dehors avec les feux d'artifice et le grand feu. Et là, on va utiliser les Carling peas. C'est une variété pourpre. De ces mêmes pois cassés un peu farineux, et ils vont rajouter du vinaigre cette fois-ci.
Oh,
et ça va faire un bon encas très réconfortant quand il fait bien froid et pluvieux au mois de novembre. Et puis, comme tu avais dit avant, le mashy peas qu'on va manger avec les fish and chips, qui est en fait un autre type de petit pois. Et alors, quand on parle de tout ça, ça n'a pas l'air très appétissant, mais ça, toi, tu as trouvé ça très bon quand même.
Ouais, moi en fait, j'adore les pois, les lentilles en général. Donc, voir une purée de pois, hein, les mushy peas, moi, ça m'a tout de suite parlé. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'aujourd'hui, on parle énormément de diminuer sa quantité, sa consommation de viande et de produits animaux. Et je pense que les pois et les légumineuses en général, c'est une solution. Il faut que ça revienne à la mode.
Ah, tout à fait. Parce que c'est très nutritif.
C'est très nutritif, c'est pas cher. Il y a de tout, il y a des fibres, c'est bon pour les intestins, il y a plein de vitamines. C'est local aussi, il y a pas besoin. Ça pousse localement, il n'y a pas besoin d'aller les chercher à l'autre bout de la planète, et ça, c'est génial.
Bah, tout à fait. Donc, allez, le peas pudding.
Voilà.
Et c'était aussi, pour terminer, un plat vraiment associé avec l'église parce que les moines, ils en mangeaient souvent, parce que pareil, c'était pas cher, nutritif. Ouais. Et pendant la carême aussi.
Moi, c'est ce que j'allais dire, pendant le mois de carême, c'est parfait.
Ouais. Et en Écosse, donc j'ai trouvé ça sur le site de la culture catholique, on va dire, ça c'est à la française, qu'en Écosse, le dimanche des rameaux, on l'appelait ça autrefois Car Sunday, alors pas car à cause des voitures, mais en référence au Carling Peas, parce que Carling c'est l'ancien nom pour les petits pois. Mm-hmm. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous a accompagnés pendant tous ces siècles et qu'on a mis de côté. Mais oui, moi je suis pour les remettre dans nos garde-manger et surtout sur la table.
On espère les remettre au goût du jour avec notre livre.
Mais effectivement, c'était tellement important qu'il y a même un comptine pour les enfants autour de ça. Et moi, ce que je propose, je vais juste le dire, et puis les filles ont gentiment accepté de le faire comme à l'école, en tapant les mains. Peas pudding hot, peas pudding cold, donc le pudding chaud, pudding froid. Peas pudding in the pot, 9 days old. Ça veut dire qu'en fait, il avait une durée de vie très longue. J'imagine, en fait, après, on le stockait, on le coupait un petit peu tous les jours si c'était un peu sec. Mais en tout cas, il avait une bonne longueur de vie, durée de vie. Après, some like it hot, some like it cold, some like it in the pot, 9 days old. Donc voilà, alors les filles, elles ont accepté de nous faire une petite spectacle audio sur le chanson Peas Pudding Hot.
Peas Pudding Hot, Peas Pudding Cold, Peas Pudding in the pot, 9 days old, some like it hot. Some like it cold, some like it in the pot, 9 days old.
Génial. Maintenant, vous êtes allé être obligé de faire ça à chaque fois que vous présentez votre livre.
Ça serait drôle.
Et maintenant, les filles, on arrive, Sarah et Aurélie, on arrive à le moment de faux pas. Je suis sûre, après tout le travail que vous avez fait sur ce livre, il y a eu quelques petits moments de panique, de bourde ou de malentendu. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter?
Alors oui, moi j'avais vraiment envie à l'origine de mettre des recettes de jelly dans le livre. Mais il se trouve que l'Adjeli, au sens culinaire du thème, donc du terme, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à faire, hein, qu'il faut faire cuire des os pendant un long moment et tout. Enfin, c'était compliqué. Moi, je voulais plutôt partir de l'Adjeli qu'on trouve, que les enfants reçoivent au moment du 4 heures, au moment du goûter. Et donc, j'ai acheté de la gélie en poudre pour en faire. J'avais même trouvé des moules victoriens à l'époque dans lesquels on faisait la gélie. Donc, moi, je me voyais déjà servir ça et tout. Et en fait, ça a été une catastrophe. Je me suis trompée dans les... J'ai essayé 3 ou 4 fois, hein, mais à chaque fois, je me trompais dans les proportions. Mmh. Soit elle était dure, comme de la pâte à coin, ou alors elle était trop liquide, et donc j'ai jamais réussi à en faire. Et bon, après 4 essais, je vais bon, ok, bon, j'abandonne. C'est pas grave, tant pis.
Ça serait pour un autre livre, peut-être.
Voilà, c'est ça.
Il y a peut-être un autre petit, petit faux pas.
Ah oui, oh là là, oui,
mais
oui,
c'est
oui,
plutôt
oui.
Un faux pas dans la construction du livre, pas tant de la recette. Parce que, donc voilà, il y a un très bon dessert que l'on appelle...
Ah oui, les summer pudding.
Le summer pudding.
J'adore. Summer pudding, donc c'est magnifique. On l'a traduit comme Charlotte aux fruits d'été, avec plein de fruits rouges à l'intérieur. Et c'est en fait notre première idée pour la couverture. Uh-huh. Et on a fait une expérience de couverture. Donc il se trouve que c'est moi qui tiens le très beau Victoria Sponge là sur cette couverture. Mais d'abord, on a essayé avec le summer fruit pudding. Et c'était... trop... On a regardé la photo, on s'est dit non, on dirait vraiment que c'est un livre sur la boucherie, quoi.
Ça faisait... En fait, ça ressemblait à un gâteau à la viande crue. Et on avait enlevé une des tranches de pain pour montrer l'intérieur. Oui. Et avec la lumière et la manière dont c'était fait, t'avais l'impression que c'était des intestins sanglants qui étaient en train de sortir du gâteau. Ça faisait vraiment très Halloween. On a pris la photo, j'ai montré la photo à Sarah, j'ai fait ça va pas être possible. Donc on a mangé le gâteau parce qu'il est très, très bon.
Ah oui.
Mais puis j'ai dit, écoute, on va partir sur quelque chose d'un peu plus classique, donc un Victoria Sponge Cake avec de la confiture et de la crème. Voilà. La crème fouettée au milieu, mais c'est vrai que
c'est beaucoup plus reconnaissable.
Ouais,
aussi.
Parce que le summer pudding c'était une bonne idée, mais ça rendait pas bien en photo du tout.
Et heureusement, je pense que pour la réputation de la cuisine anglaise, oui. Ça aurait été.
Ça nous aurait pas servi, non.
Non. Bon, bah, écoute, félicitations encore pour ce merveilleux livre. Hein. C'est un vrai voyage culinaire au cœur de l'Angleterre. Qui donne vraiment envie de voyager là-bas, mais comme tu dis, tu peux aussi voyager dans ta cuisine ou dans ton canapé en train de lire. C'est vraiment un très très beau livre. On peut le trouver où? Partout?
Dans toutes les bonnes librairies.
Yes.
De France et des pays francophones, oui, de Suisse, Belgique, oui.
Super. Et j'imagine qu'après l'Angleterre, bah, y a la place pour le livre l'Irlande ou Pays de Galles. On a parlé de Pays de Galles dans ce livre.
On va faire...
Là, Aurélie fait des grimaces, j'aimerais bien savoir pourquoi.
Alors, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Sarah et moi, on a enchaîné les deux livres d'un coup, sans pause. 2022, janvier 2022, ça a été la sortie de Écosse. Et là, mars 2024, c'est la sortie de Angleterre. Sarah et moi, on a d'autres boulots à côté, des boulots à temps plein. Travailler sur un livre en plus de nos activités respectives, c'est beaucoup de travail. Et là, on est un petit peu fatigué. On va prendre une pause avant. On n'exclut pas la possibilité qu'on continue l'aventure. Mais là, on va prendre une pause d'abord.
Bah oui, tout à fait. Et puis, il faut qu'on digère déjà l'Angleterre. Mais je pense que... J'espère en tout cas, après une bonne pause, ça vous donnerait l'appétit de nouveau pour revenir avec la suite. Et pour ceux qui veulent goûter un peu d'Angleterre sans traverser la Manche, vous pouvez évidemment acheter le livre, mais vous pouvez aussi goûter la cuisine anglaise dans de nombreux établissements en France, que vous pouvez trouver à la fin du livre, mais aussi sur mon site La Crème Anglaise, où j'ai listé plein d'adresses. Et bah voilà, je vous remercie, c'était génial de passer un moment avec nous.
Merci beaucoup.
Et encore félicitations pour ce beau livre.
Merci Sarah et bon appétit.
À la fin de l'enregistrement de cet épisode, nous avons fait connaissance avec le chef de l'entente The British Brasserie, Mark Williamson, qui se rappelait de Peace Pudding dans sa jeunesse. Il nous racontait que sa mère la préparait comme une grosse saucisse, donc avec une consistance plus épaisse que la version d'Aurélie. Elle coupait des tranches de Peace Pudding qu'elle déposait sur une assiette avec des travers de porc, qu'elle nappait ensuite avec du gravy, notre sauce à base de jus de la viande. C'était un repas délicieux et bien nourrissant. Donc voilà, vous pouvez avoir la version plus moderne de Rolly ou la plus traditionnelle de Marc. Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous pouvez trouver tous les épisodes, les recettes et les bonnes adresses de La Crème Anglaise sur mon site web podcast La Crème Anglaise. À bientôt pour un nouvel épisode. Cheerio and see you soon.